tiraagje de gouden suite. Je vous ai parlé rapidement tout à l'heure de la bonté naturelle et de la bonté personnelle. Alors on m'a demandé de revenir un instant dessus pour que vous voyez mieux. La bonté naturelle de chacun d'entre nous. Nous avons une nature qui est bonne, bien qu'elle soit source de péché. Mais au point de vue philosophique, je regarde surtout la bonté. Je ne parle pas du péché. Je vois qu'il y a des accros, il y a des fausses routes. La bonté naturelle, elle ne me fait jamais découvrir la cause finale. C'est ça qu'il faut saisir. Et que, hélas, beaucoup qui commandent saint Thomas ne voient pas la différence. Je ne donne pas des noms, c'est pas la peine. Mais chez Aristote, la bonté naturelle, la nature est bonne en soi. Comment la bonté naturelle se découvre? Elle se découvre à partir de la nature, donc à partir de la forme. Et on découvre la bonté naturelle comme une conséquence, alors soulignée, comme une conséquence de la nature. La nature en soi est bonne. Je ne découvre pas la bonté naturelle comme un principe. Mais je la découvre comme une conclusion. Ceci, c'est capital. Je ne découvre la bonté personnelle. La bonté personnelle que comme un principe. Donc, la causalité finale ne se découvre qu'à partir de la bonté personnelle et non pas à partir de la bonté naturelle. Puisque la cause finale est un principe. Autrement dit, dans Aristote, il y a deux visions de la bonté. Une vision univoque, une vision analogique. La vision analogique de la bonté, c'est dans l'éthique. Ce n'est pas dans la métaphysique que vous la découvrez. Vous la découvrez dans l'éthique. C'est très important. C'est l'éthique qui permet à la métaphysique d'être elle-même. Et ce n'est pas la philosophie de la nature. La philosophie de la nature, on a beau la pousser plus qu'on veut, on n'arrivera jamais à la personne. On arrive à la personne que par l'éthique. C'est très important pour nous, ça. Parce que si vous cherchez en philosophie de la nature la bonté, la fin, comme un principe, vous ne le trouverez pas. Ben, métaphysique, on revoit ça et on verra ça. Cette bonté naturelle, cette bonté personnelle, qui fait que je suis attiré à la bonté personnelle de quelqu'un, comme personne, sans déterminer explicitement sa personne, mais c'est la personne que j'aime. Et c'est vrai, c'est la personne que vous aimez. Lui dira, c'est magnifique chez toi, la nature est splendide, tu as dû avoir des ancêtres magnifiques, ils n'ont pas éreinté la nature. Tandis que si vous êtes fils d'un quelqu'un qui aimait la boisson un petit peu trop, ça atteignait forcément la personne. C'est même l'ivrognerie qui est le signal le plus manifeste que le péché atteint la personne. Quand vous avez des confidences de quelqu'un qui s'est marié vraiment en épousant une personne qu'il a aimé, et qu'au bout de quelques années, vu le contexte, cette personne aimait le bon vin. Ce qui n'est pas mauvais d'aimer le bon vin, mais l'aimait un peu trop. De sorte qu'il s'est mis à boire, entraîné par des amis. C'est assez courant, hein. Et la pauvre petite épouse, alors, elle n'a pas épousé un ivrogne. Elle a épousé un homme, une personne. Et voilà que cette personne devient un ivrogne. Avec l'ivrogne, la personne diminue et la nature augmente. Pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus que la nature. J'avais déjà rencontré un homme ivrogne. C'est une expérience que l'on fait couramment, c'est que le vin, l'ivrogne, est soit pieux, soit en fureur. Le vin, ah, j'ai un curé. Et puis alors, j'ai eu l'expérience. Hein. Il avait un couteau en main, petit un peu exactement, une espèce de canif à cran avec une lame longue. Et il me dit, ah, tu es un curé. Et il y a l'inverse. Heureusement, j'étais dans le train, j'étais seul avec lui, mais il montait un troisième qui, lui, était un valaisan et qui avait une expérience du bon vin, mais qui restait lui-même. Alors, quand il a vu, il a tout de suite compris, sans que je dise rien. Il était aux deux extrémités. Et puis, il s'est retourné vers moi. Je suis là. Je te défends. Et alors, quand l'autre a présenté son pointe, son canif à cran, l'autre n'a pas hésité de d'arracher par la lame. Vous voyez ce que ça fait? Pour le désarmer. Et là, il a fait juste l'inverse. Il a retourné vers lui. Si tu bouges, je bouge. Touche pas. Il y a juste un rame. Le vin porte vers l'ivrognerie, s'oppose violemment au curé. L'autre n'était pas ivrogne, mais il aimait le bon vin. Et c'était l'inverse. C'est un bon valaisan. C'est très curieux, et ça a duré un certain temps. Hein. Nous étions à trois dans le compartiment, et le train filait. Et ce vin, celui qui était ivrogne, avait dans ses deux grosses bouteilles de bon vin encore à déguster. Heureusement qu'il y avait le troisième. Et lui, ça fait changer l'équilibre. Alors, ce qu'il y a de plus important, d'une certaine manière, c'est quand vous aimez vraiment d'un amour personnel, le bien personnel, ce bien d'une personne qui commence à naître, cet amour ne sera parfaitement amour que si l'autre commence à aimer. Autrement dit, cet amour, l'amour le plus grand qui existe, au point de vue philosophique, un amour spirituel de l'ami, d'amour spirituel d'une personne. Cette personne commence à m'aimer. Il peut y avoir une réciprocité. Je l'aime, il m'aime. Cette réciprocité, au début, est faible, mais si elle continue, elle grandit. Et il y a une amitié qui se fait. L'amitié est une réciprocité d'amour spirituel. Il peut y avoir réciprocité que pour un amour spirituel. L'amour spirituel appelle l'amour spirituel. J'aime cette personne, et cette personne, du fait qu'elle est aimée, je suis pour elle un bien spirituel en acte. Puisque je l'aime. Je suis donc pour elle un dessert. Tout de suite, qui s'allume et dans son cœur fait pousser un amour spirituel. Un amour spirituel appelle un amour spirituel. C'est ça qui est très étonnant. Ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier à l'amour spirituel. L'amour passionnel n'appelle pas l'amour passionnel. Oui, il l'appelle par accident, mais pas par lui-même. Tandis que l'amour spirituel, par lui-même, appelle l'amour spirituel. demande la réciprocité. Et cette réciprocité permet à l'amour de connaître une intensité nouvelle du fait que j'aime quelqu'un, je suis attiré par quelqu'un, et que ce quelqu'un subitement s'éveille et m'aime. Mon amour pour lui va changer de nature et deviendra un amour d'amitié. C'est cela qu'il faut bien saisir. L'amour spirituel d'une personne, c'est déjà ce qu'il y a de plus grand dans l'ordre de l'amour. Et de plus beau, parce qu'il porte sur une personne. Et la personne est le bien spirituel le plus élevé que je connaisse. Je ne connais pas de bien plus spirituel, plus bien que le bien personnel. Mais si ce bien spirituel que j'aime atteint par mon amour, se met à m'aimer, il y a un appel nouveau à aimer, à l'aimer. Et ce phénomène nouveau, je l'appelle l'amour d'amitié. Qui est l'expérience dans l'ordre de l'amour, qui est l'expérience la plus élevée, la plus noble, la plus spirituelle que je peux avoir en ce monde. J'aime celui qui m'aime comme un ami. Et je l'aime comme un ami. Je l'aime plus que moi-même. Je l'aime comme un ami. Parce que il reçoit mon amour. Non seulement il le reçoit, mais il permet à mon amour de s'épanouir. Je ne peux pas aimer plus que d'aimer un ami. Parce qu'alors, j'aime l'amour qu'il y a chez lui. Ce n'est plus seulement le bien que j'aime, mais c'est ce bien transformé en amour pour moi que j'aime. Et aimer l'amour, c'est là où l'amour peut le plus se développer. Aimer le bien personnel, mettre ces 3 degrés. Il y a l'amour naturel, l'amour personnel, l'amour de l'ami. Et chaque fois, l'amour est différent, prend une note spéciale, particulière. Est unique. Et il n'y a que lorsque l'amour rencontre l'amour, que l'amour peut s'épanouir librement. C'est même là où l'amour est source d'une liberté plus grande. Les gens ordinairement disent, lorsque vous aimez, vous êtes moins libre. Bien connu, hein, c'est les gens qui n'aiment pas qui disent ça. Qui essaient d'aimer mais qui n'y arrivent pas. Alors ils sont jaloux. Parce qu'au fond, on devrait être joyeux qu'il aime. Et par le fait même, il est bien plus libre. C'est curieux, hein. Et c'est cet amour-là qui suscite les jalousies. On n'est pas jaloux pour quelqu'un qui aime une personne. On n'est pas jaloux de ça. Mais on est jaloux pour une personne qui aime l'amitié, l'amour d'une personne. C'est extrêmement curieux, ça. Et ça fait saisir, justement, ce que c'est que la jalousie. La jalousie, c'est que on voudrait être à la place de celui qu'on jalouse. Si on ne tient pas compte de son amour, on n'est pas jaloux. Ah, tu as celui-là comme un mur. Ah, oh, c'est très bien, je suis très content pour toi. Très bien. Oui. Par derrière, hein, qu'est-ce que tu dis? Je voudrais bien être à ta place. Hein. Et je fais tout ce que je peux pour prendre ta place. La jalousie, c'est terrible. Hein. Mais la jalousie nous aide à comprendre l'amour d'amitié. Si on est un peu lucide sur la jalousie, on comprend que l'amour d'amitié, c'est justement ce qu'il y a de plus élevé, de plus noble, de plus beau. Alors, forcément, il met l'ami en pleine vedette. Il le montre derrière les vitrines. Et par le fait même, l'amitié et l'amour, là, suscitent des terribles jalousies. Et il faut vraiment que les autres aient une expérience d'amitié réelle et profonde pour qu'ils ne soient plus jaloux. La jalousie se corrige par l'amour d'amitié. Par l'amour. Et l'amour d'amitié. Si vous avez une expérience d'amour d'amitié vraie, profonde, mais vous n'êtes pas jaloux de voir quelqu'un à côté de vous qui a la même expérience. Au contraire, vous le comprenez. Ah, je comprends très bien. Je comprends très bien l'attitude que tu as, c'est normal. Parce qu'il est ton ami et qu'il a besoin de toi et qu'il a besoin de ton amour pour se stabiliser. C'est extrêmement important, ça, dans toute vie commune. C'est que l'expérience d'une amitié véritable, dans la réciprocité du choix, suscite nécessairement des jalousies. Quand ces jalousies sont dépassées par tout simplement un amour, c'est parce que, de fait, on a nous-mêmes l'expérience de l'amour. Alors, on n'est pas jaloux. Et c'est pour ça que l'amour d'amitié est quelque chose qui nous éduque très profondément. Parce que arriver à dépasser les jalousies, je crois que c'est le sommet de l'éducation. C'est on ne peut pas aller plus loin. Et c'est merveilleux. Parce que l'amour d'amitié, au lieu de devenir un écran, un mur, devient au contraire un moyen d'aimer plus. D'aimer plus l'ami, son ami. Si je vois et que j'expérimente une amitié profonde de quelqu'un que je connais, et je vois qu'il y a cette amitié profonde du fait de quelqu'un, il y a deux attitudes. Ou ça suscite une terrible jalousie si je n'ai pas d'expérience d'amitié. Ou si je n'ai pas dépassé cette expérience. Et la vie religieuse, par exemple, supprime beaucoup de possibilités d'amitié. Ça, c'est bien évident. Je ne suis pas libre de mes mouvements. Je suis saisi par une vie religieuse. Donc, cela élimine pas mal d'amis qui ne peuvent pas souffrir ça. Qui ne peuvent pas souffrir que la vie religieuse, comme vie religieuse, peut être un arrêt dans certains cas. Par exemple, on dira à la personne, ça m'est très difficile pour moi de te voir le soir. Je peux pas. Ah, c'est ça, oh, alors c'est fini. Vous voyez, pour aimer un religieux d'un véritable amour d'amitié, il faut dépasser pas mal de limites, pas mal de choses qui nous arrêtent. La question du temps, des lieux, des tas de choses. On est moins libre, quoi. Vu de l'extérieur, un religieux, il est ficelé. C'est évident. Vu de l'extérieur, il n'est pas un homme libre. Imagine pas. Quand même, à 30 ans, tu dois demander la permission. Hein. Oh, qu'est-ce que je vois ? Je considère comme un gosse. Comment voulez-vous qu'on comprenne ? On s'est lié en plus, on s'est lié parce qu'on l'a considéré comme étant pour nous le Christ. Mais ça demande justement toute une éducation interne et un amour qui domine les autres, c'est-à-dire l'amour du Christ. l'amour du Christ n'est jamais un empêchement à l'amour. Mais l'amour du Christ réclame de l'ami, des amis du religieux, un très grand dépassement. Parce que justement, le religieux a une vie sévère comparativement à quelqu'un qui est dans le monde. Et on n'arrive pas à dépasser cette sévérité. Ce qui devrait, au contraire, augmenter l'amour. Parce que cette sévérité, pourquoi elle existe? Elle existe parce qu'on aime le Christ. On accepte une vie sévère pour les gens du monde. C'est bien évident. Là, les gens ont une vie sévère. Le jeune religieux, et il devrait être toujours jeune, mais quelquefois ils vieillissent. Alors, à ce moment-là, ils ont moins de barrières. Mais les barrières devraient être considérées, puisqu'elles sont acceptées à cause de Jésus, comme non pas du tout comme quelque chose qui diminue, mais quelque chose qui augmente. C'est la coupe sévère de l'arbre fruitier. La coupe sévère de l'arbre fruitier. Pourquoi ? Le fruit qui aura sera plus parfait. Et la vie religieuse, c'est ça. Que les fruits qui aura soient plus parfaits. C'est une coupe sévère. Il ne peut se comprendre que des arbres fruitiers. Ou une coupe sévère qui se comprend de certaines modes. Une certaine mode aujourd'hui. L'arbre trop élevé. Tous à la même taille. Tandis que le charme de la forêt, c'est que il y a des grands seigneurs et des petites gens. Tandis que la démocratie dans la taille des arbres est remarquable. Il faut qu'ils soient tous coupés de la même façon. Très curieux, voilà. Et ça fait beaucoup penser à une civilisation dans laquelle on se trouve. Et dans l'ordre de l'amitié, il faut dépasser ça pour comprendre que ils ont ses limites, ses frères. Par amour pour Dieu. Donc si c'est par amour pour Dieu, sûrement, ça lui permet d'aimer plus. Alors, à la place de faire le raisonnement, « Ah, si c'est ça, c'est impossible. »« Ah, très bien, on s'arrangera. » Parce qu'on sait que c'est pas un caprice. On sait que c'est à cause d'un amour plus grand. Et un amour plus grand n'est jamais un ennemi de l'amour. Puisque aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, nous permet énormément d'aimer nos frères. Un vrai chrétien doit aimer ses frères et ses sœurs, avec un amour plus intense que n'importe quelle autre personne. C'est l'amour qu'on a pour Dieu, bon, nous rend plus capables d'aimer. Ça, c'est très, très important de comprendre ça. Ça diminue, peut-être, ça élague certaines personnes qui voudraient vous voir tout le temps. Cet amour limite, d'une certaine manière, et d'une autre manière, permet d'aimer plus. Donc ça joue du côté de la qualité de l'amour. Et ça diminue le point de vue de la quantité. Ça, c'est net. Alors, comprenons bien que l'amour, il n'y a rien de plus qualitatif que l'amour. L'expérience que nous avons de l'amour d'amitié est l'expérience la plus qualitative que nous pouvons avoir. Et donc, loin de d'être comme un été noir, ça permet au contraire d'aimer plus. Et d'aimer plus profondément et d'une façon plus vraie. Et ça, il y a de si grand dans la vie religieuse, l'amitié doit trouver une possibilité de terrain parfait. Où il se réalise d'une façon beaucoup plus parfaite. Alors, comprenons donc bien que le sommet de nos expériences humaines, personnelles, c'est l'amitié. Ça, je voudrais que pour vous, ce soit une évidence. Dans un monde comme le nôtre, c'est sans doute le seul moyen que Dieu nous donne de ne pas nous laisser envelopper par une espèce de force, de puissance extrinsèque. Il faut que l'amour puisse demeurer. Il est évident que notre amour pour Jésus nous permet de connaître d'une façon plus profonde cette expérience de l'amour d'amitié vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs, vis-à-vis du monde, des amis. Mais c'est très éprouvant, puisqu'il y a une taille très forte. Mais si on arrive à dépasser cette taille, à la respecter, à la vivre, parce qu'elle fait partie de notre vie, elle fait partie de notre choix, alors à ce moment-là, il y a une qualité beaucoup plus profonde, une pureté beaucoup plus grande, un égoïsme ou un égocentrisme qui diminue beaucoup. On aime l'autre vraiment pour lui-même. Et dans ce qu'il a de meilleur. Et nous-mêmes, nous sommes obligés de l'aimer avec ce qu'il y a de meilleur en nous. De sorte que ce qu'il faut, c'est bien saisir que cet amour d'amitié, avec sa réciprocité, peut être une expérience, parce qu'il reste dans l'ordre de l'expérience. C'est ça, du reste, la force de l'amitié. C'est qu'il y a une expérience vitale possible. Comme expérience vitale, il n'y a rien d'aussi qualitatif. D'aussi grand, par le fait même. Alors, ça fait comprendre cette chose très particulière, que c'est peut-être pour nous le moyen de nous approcher le plus de la découverte de celui qui est au-delà de toute expérience de Dieu. Et si vraiment l'amour d'amitié est l'expérience la plus parfaite que je puisse avoir sur terre, cette expérience me permet de vivre au point de vue de l'intelligence et de son dépassement, de vivre de quelque chose qui est un sommet pour notre vie intellectuelle. C'est très grand. Ça permet de soulever là des obstacles énormes qui empêchent souvent les hommes, les femmes, de découvrir l'existence de Dieu. Et c'est cette amitié, il leur permet cela. Et nous devons, nous, à l'égard de ceux qui cherchent et qui sont prêts à recevoir la vérité, être très attentifs à ça. C'est une disposition merveilleuse pour qu'ils découvrent l'existence de Dieu. Et qu'ils la découvrent de la façon la plus profonde.